Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les vertus et les vices. Nous regardons en ce moment les vertus théologales, c'est-à-dire les vertus qui ont Dieu pour origine et Dieu pour objet. C'est Dieu qui nous les donne, ces trois vertus. On parle ici de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est Dieu qui nous les donne. Et elles ont Dieu pour objet, c'est-à-dire que nous croyons en Dieu, nous mettons notre espérance en Dieu. Et maintenant, nous allons voir la troisième de ces vertus, la plus importante, la vertu de la charité. Alors, tout d'abord, une question de vocabulaire. Comme nous avions déjà vu pour les autres vertus cardinales, là pour la prudence notamment, pour la justice, pour la force, il y a un problème de vocabulaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de charité, peut-être que dans le milieu d'église, des gens qui ont suivi quelques formations, c'est un peu plus clair. Mais quand on parle de charité, on pense souvent à l'aumône, au petit argent qu'on donne à quelqu'un, aux vêtements qu'on donne à quelqu'un quand il a froid, à la nourriture, à des petits gestes dont on parlera tout à l'heure, bien évidemment. Mais la charité est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. La charité est tout simplement l'amour. L'amour. Et là, vous pouviez me demander, mais alors pourquoi l'appelle-t-on charité ? Si c'est l'amour, pourquoi on n'utilise pas le mot amour ? Parce que le mot amour est piégé. Parce que le mot amour, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Surtout dans nos langues actuelles, on peut dire « j'aime Dieu » comme « j'aime le chocolat », comme je peux dire « j'aime beaucoup »,« j'aime bien », »,« j'aime tout court »,« j'aime ma mère », »,« j'aime regarder un film à la télévision », etc. Donc le mot « amour » est piégé. Les Grecs, qui avaient une langue beaucoup plus riche en vocabulaire que nous, ils avaient trois mots, notamment pour décrire l'amour. Ils avaient le mot « eros », qui décrit l'amour passionnel, passionné entre l'homme et la femme, l'amour amoureux. Ils avaient le mot « philia » qui décrit l'amour d'amitié, l'amour qu'on a envers nos amis. Et ils avaient le troisième mot, le mot « agapé », d'où le mot « agape » en français, les agapes qu'on partage ensemble. Le mot « agapé », c'est l'amour qui se donne, l'amour total, l'amour qui descend vers l'autre, qui n'exige rien en retour, l'amour qui est gratuit. L'amour qui est capable de souffrir pour l'autre, qui ne veut pas les posséder, mais qui se donne. Cet amour, c'est la charité. Donc, quand on a traduit du grec au latin, cette fois-ci, on a traduit ce mot agapé par caritas, c'est-à-dire charité. Vous voyez pourquoi il est bien de préciser. Parce qu'autrement, si on disait juste la foi, on peut le dire, c'est pas faux, la foi, l'espérance et l'amour, ça a l'avantage d'être plus actuel, ça parle plus aux gens. Quand on décrit les vertus théologales foi, espérance et amour, et c'est correct, puisque la charité est un type d'amour, mais l'Église utilise le mot charité pour être plus précis, pour montrer que ce n'est pas n'importe quel type d'amour, mais un type précis. Ce type d'amour qui se donne, ce type d'amour gratuit, l'amour théologal, l'amour que Dieu nous donne et qu'a Dieu pour objet, et bien sûr notre prochain aussi, on le verra. Or, cet amour-charité, donc, est un amour qui est très concret. Celui qui l'a décrit le mieux, c'est saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens. Nous avons, au chapitre 13, l'hymne à la charité, que je vais prendre le temps de vous le lire, c'est pas très long, mais c'est très concret et très éclairant. Saint Paul nous dit « Aspirez au don supérieur », je lis la lettre aux Corinthiens. Et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don des prophéties et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tout mon corps aux flammes, tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, Ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, demeure foi, espérance, charité. Ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Voilà mes frères, les paroles de Saint Paul que j'ai pris le temps de lire, de proclamer sur la charité. Donc il nous parle fondamentalement de trois choses, si on veut résumer la pensée de Saint Paul dans ce texte. La première chose, c'est que la charité est fondamentale pour la vie chrétienne. Sans la charité, nous avons beau avoir la foi, nous avons beau parler en langue, prophétiser, connaître la science du ciel et de la terre, connaître la Bible par cœur, si on n'est pas enflammé de cet amour, la charité étant l'amour, je vous le rappelle, si on n'est pas enflammé de cet amour, alors notre vie spirituelle, notre vie de foi ne sert à rien, nous dit Saint Paul en tout cas. Et il décrit cette charité dans tous ses attributs, dans toutes ses qualités, qu'elle supporte tout, qu'elle excuse tout. Ce sont des mots très forts de la part de Saint Paul. Elle croit tout, voilà la foi et l'espérance, elle espère tout qui reviennent. Elle est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne se gonfle pas d'orgueil, etc. Et troisièmement, il nous donne déjà la relation entre la charité et les deux autres vertus, la foi et l'espérance. Tant que nous sommes ici-bas, nous dit Saint Paul, nous avons besoin de trois. Nous ne pouvons pas aimer ce qu'on ne connaît pas par la foi. Et si on n'espère pas les biens que le Seigneur nous donnera, alors à quoi bon avoir la foi et l'amour ici-bas? Donc ici-bas, nous avons besoin des trois, la foi et l'espérance et la charité. Et Saint Paul nous dit que la charité est la plus grande des vertus. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans le ciel, les deux autres disparaîtront. Dans le ciel, on n'aura pas besoin de foi, on verra Dieu face à face. On n'a pas besoin de croire en lui puisqu'on le verra. On sera dans la vision et non plus dans la foi, comme dit la théologie catholique. On ne sera plus dans l'espérance, vous serez d'accord avec moi, puisqu'on aura obtenu les biens de la promesse, ce vers quoi l'espérance nous portait. Mais on sera toujours dans la charité, et saint Thomas d'Aquin nous dit, de façon merveilleuse, la charité n'arrête jamais de croître, de grandir. Donc même dans le ciel, nous passerons l'éternité à aimer Dieu de plus en plus, et à aimer nos prochains de plus en plus. Donc la charité restera dans la vie éternelle et croîtra. C'est le propre de la charité que de grandir, que de se diffuser. Alors, mes frères, d'où nous vient cette charité? D'où nous vient cet amour? Ou autrement dit, comment peut-on obtenir cet amour pour le distribuer, pour le donner à Dieu et aux autres? Or, l'origine de l'amour, bien sûr, c'est Dieu. Je pense qu'on n'a jamais mesuré assez l'ampleur de cette petite phrase, de ce petit verset de la première lettre de Saint Jean qui nous dit « Dieu est amour ». C'est une révolution dans l'histoire humaine que de dire « Dieu est amour ». Parce que la relation des hommes à Dieu a souvent été basée sur la crainte, la peur. Puisque j'ai peur que les choses ne marchent pas, n'aillent pas comme je veux, donc je m'adresse à Dieu pour l'apaiser, pour qu'il puisse être favorable, pour qu'il puisse exaucer mes désirs, mes envies, etc. Donc la relation de l'homme à Dieu dans toutes les religions du monde a souvent, pour ne pas dire toujours, mais souvent, été basée sur la peur. Or, la révélation chrétienne nous dit « Dieu est amour ». Dieu est amour d'abord en lui-même, puisque Dieu, nous croyons, nous les chrétiens, est unique, mais n'est pas solitaire. Dieu est une communion de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui s'aiment d'un amour qui est parfait. Cet amour dans l'unité. Vous voyez, l'amour, il veut que, quand on aime quelqu'un, on veut être une seule chose avec cette personne. Dieu qui nous aime veut être une seule chose avec chacun d'entre nous. Et à l'intérieur de la vie divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, mais trois personnes qui s'aiment d'un amour parfait. Donc Dieu est amour à l'intérieur de lui, mais Dieu est amour aussi à l'extérieur puisqu'il se donne. Si vous voulez, le verset qui résume le mieux toute la foi chrétienne, si un jour on vous pose la question « Pourquoi êtes-vous chrétien? En quoi croyez-vous » et que vous n'avez pas le temps de développer tout notre credo et qu'on vous demande en une seule phrase, vous pouvez très bien citer cette phrase de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Donc c'est Dieu le premier, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui, en regardant la méchanceté du monde, la misère des hommes, qui ne sont autres que notre méchanceté, notre misère, le mal qui habite dans le cœur de chacun d'entre nous, Dieu en regardant tout cela, il aurait pu supprimer les hommes, il aurait pu condamner et détruire le monde. Non, Dieu a voulu aimer chacun d'entre nous. Il a envoyé son Fils. Et la preuve de ce que Dieu nous aime, dira Saint Paul aux Romains, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous alors que nous étions pécheurs. Dieu n'a pas attendu que l'on soit bien sage, bon, des braves gens, des gens parfaits, des justes pour nous sauver, pour mourir pour nous. Non, la preuve qu'il nous aime, c'est qu'il a donné la vie pour nous alors que nous étions pécheurs, impies. Et le Seigneur nous donne la vie éternelle gratuitement par amour. Quand nous expérimentons cet amour, quand nous voyons que Dieu nous a aimés gratuitement, qu'il ne s'est pas scandalisé de nos péchés, qu'il nous a donné son Fils, qui a donné jusqu'à sa dernière goutte de sang. Nous connaissons l'histoire. Quand le soldat frappe le côté du Christ déjà mort, il y a de l'eau et du sang qui sortent. Alors si même l'eau est sortie, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. Il était vide à l'intérieur. C'était vraiment la dernière goutte. Il s'est vidé pour nous, il s'est abaissé de Dieu qu'il est, il s'est fait homme, d'homme qu'il était, il s'est fait esclave de tous, d'esclave qu'il était, il est mort, et non pas de mort naturelle ou de n'importe quelle mort, mais de la mort la plus honteuse de l'époque, la mort sur la croix, jusqu'à la dernière goutte de sang. Dieu qui s'est vidé tout entier pour toi et pour moi, par amour gratuit, parce qu'il nous aime. Donc c'est cet amour qui nous pousse à aimer les autres, à aimer Dieu en retour. Pour cela, le double commandement de l'amour, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Le schéma Israël, comme disent nos frères aînés dans la foi, nos frères juifs, schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est unique, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et le deuxième commandement qui va avec, nous le savons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez mes frères, dans la foi chrétienne, le premier commandement, c'est d'aimer, aimer Dieu, aimer son prochain. Et bien sûr, l'amour du prochain est très important. Là aussi, c'est Saint Jean dans sa lettre qui nous éclaire en disant comment peut-on dire qu'on aime Dieu, qu'on ne le voit pas, qu'on ne voit pas, alors qu'on n'aime pas les prochains qu'on voit tous les jours. On ne peut pas dire « j'aime Dieu » si je n'aime pas les prochains. Dieu a voulu, par un mystère ineffable, insondable, Dieu a voulu lier notre relation à lui à notre relation au prochain. Vous rendez-vous compte? Dieu a voulu lier notre relation à lui à notre relation au prochain. Et on peut mesurer la qualité de notre relation à Dieu, l'intensité de notre relation à Dieu, non pas par le nombre de prières que l'on prononce, mais par notre amour au prochain, du prochain. En regardant la qualité de notre rapport, de notre amour envers le prochain, nous pouvons mesurer aussi la qualité de notre amour envers Dieu, selon ce que dit la lettre de Saint Jean. Et bien sûr, cet amour du prochain est un amour qui est concret, qui se fait miséricorde, comme l'amour de Dieu envers nous se fait miséricorde. Et là, vous pouvez me demander, mais vous avez parlé de charité, vous avez dit que la charité est un type d'amour, là, vous nous parlez de miséricorde, quelle est la relation, le rapport entre tout ça? Tout simplement, la miséricorde, c'est donc, reprenons depuis le début, la charité est un type d'amour. Parmi tous les autres types d'amour, la charité en est un, cet amour qui se donne, cet amour gratuit, cet amour total, ce qu'on appelle le don de soi. Le don de soi. Donc la charité étant un type d'amour, la miséricorde, c'est cette charité qui s'épanche vers la misère, d'où les mots miséricorde, donc s'épanche vers le cœur qui s'épanche vers la misère de l'autre, qui s'abaisse, qui se fait petit à la misère de l'autre, et donc miséricorde. La même chose que le Seigneur a fait avec chacun d'entre nous. Le Seigneur nous a fait miséricorde, c'est-à-dire il est venu rejoindre la misère de l'humanité déchue, de l'humanité tombée dans les péchés. Alors cette miséricorde, nous sommes appelés à la voir pour les autres, pour les personnes qui sont autour de nous, avec des gestes très concrets. Et là, on revient à l'idée actuelle de charité, donner à manger à ceux qui n'ont pas, donner à boire à ceux qui ont soif, donner des vêtements, aider, prier les uns pour les autres, et enterrer les défunts, etc., etc. Conseiller ceux qui doutent, enseigner les ignorants. L'Église en développe 14 œuvres de miséricorde, c'est-à-dire une charité concrète qui se penche vers les besoins, les nécessités, la misère d'autrui.
Père, merci. Je voudrais juste, peut-être, ce serait bon de préciser, qu'est-ce que finalement, si déjà tout était contenu dans la loi, pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau ?
Oui, une très bonne question que saint Augustin a travaillée d'ailleurs. Vous savez, il y a un sermon de saint Augustin qui commente l'évangile du commandement nouveau. Et il nous dit que quand Jésus dit, je vous rappelle donc le texte, à la dernière scène, quand Jésus est avec ses disciples, quand on lui va instituer l'Eucharistie, laver les pieds avant de partir pour la crucifixion, pour sa passion, Jésus dira aux disciples, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et saint Augustin, comme vous, comme tout croyant, s'interroge pourquoi parle-t-on d'un commandement nouveau si on savait déjà par ailleurs que le premier commandement était d'aimer Dieu, suivi du deuxième qui lui est semblable, aimer les prochains comme soi-même. Et saint Augustin va nous dire que ce n'est pas l'amour qui est nouveau, ce n'est pas l'amour qui fait la nouveauté de ce commandement, mais la mesure de l'amour. Vous voyez bien que Jésus ne dit plus « aime ton prochain comme toi-même », mais il dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Regardez la profondeur et en même temps la grandeur de cet amour. On est appelé à aimer l'autre, non plus tout simplement comme nous avons un amour de soi, c'est-à-dire une estime de soi qui est tout à fait saine et nécessaire et bonne et qui nous vient de Dieu, puisque nous sommes des créatures aimées de Dieu. Donc, et Dieu nous a considérés tellement dignes qu'il est mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous en son Fils Jésus-Christ. Donc il a une estime de soi qui est digne. Mais Jésus est en train de nous dire que l'amour que nous donnons aux autres ne peut plus avoir comme mesure l'estime de soi, tout simplement. Mais il nous appelle à aimer l'autre comme lui-même nous a aimés. Et comment nous a-t-il aimés ? En se donnant complètement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en nous pardonnant gratuitement toutes les injures, toutes les fautes, tout ce que nous lui avons fait, le Seigneur Jésus nous a pardonné gratuitement. Donc ce commandement nouveau nous amène au pardon, déjà, qui est très difficile, au pardon qui, et pardon des offenses qui, justement, a pour mesure l'amour que Jésus-Christ a eu envers nous. On peut se dire, par exemple, je ne pardonnerai pas cette personne parce qu'elle m'a fait du mal et puisque je dois m'aimer moi-même avant d'aimer l'autre, alors je peux pas pardonner puisqu'elle a, elle a porté atteinte à ma dignité, à mon intégrité, etc. Or, quand on reçoit le nouveau commandement de l'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dans cette mesure nouvelle de l'amour du Christ, alors le pardon est nécessaire, puisque nous pouvons aimer l'autre même s'il a porté atteinte à notre dignité, à notre intégrité. Vous allez me dire, c'est dur d'entendre ça, c'est vrai, c'est dur, mais c'est par grâce. Le mot pardon, déjà, parle de lui-même. Pardon. C'est un don venu du ciel. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à pardonner telle ou telle personne, telle ou telle injustice. Mais on peut demander dans la prière, pour commencer. On peut commencer par là. Demander au Seigneur la grâce, qu'il nous fasse la grâce de pardonner, qu'il nous donne ce don, pardon, qu'il nous aide. Et pour cela, l'amour, la charité, cet amour total, ce don de soi, n'est jamais un moralisme, un légalisme, c'est-à-dire l'application froide d'une loi froide. Pas du tout. Si je décide, à partir de maintenant ou de demain matin, je vais aimer tout le monde de cet amour total, je vais pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, comme ça, si je décide par moi-même, par ma bonne volonté, par la force du poignet, mes frères, très vite, on sera déçus. Très, très vite. Et on se rendra compte qu'on tiendra peut-être 2 jours et encore. Mais le Seigneur nous invite à nous laisser envahir par la grâce. Plus tu expérimenteras l'amour gratuit de Dieu pour toi, que Dieu ne s'est pas scandalisé de tes péchés, mais qu'il t'a pardonné, qu'il t'a aimé, plus tu expérimenteras que Dieu aime l'autre, celui qui t'a fait du mal. Dieu l'aime aussi, et Jésus-Christ a donné son sang sous la croix pour lui, pas seulement pour toi, mais pour lui aussi. Lui aussi vaut le sang du Christ, comme toi tu vaux le sang du Christ. Donc plus on sera dans cette dynamique de la grâce, plus l'Esprit-Saint nous portera à aimer et à pardonner les autres. Vous voyez, ce n'est pas un moralisme, mais c'est un travail de l'Esprit-Saint à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est un cheminement, c'est un cheminement. Et ce cheminement est fondamental, non pas seulement dans une dimension individuelle, mais aussi communautaire, ecclésiale. Jésus-Christ va dire que l'amour est un signe de la foi, quand il dit « en ceci ». Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, soit nous croyons aux paroles de Jésus, soit nous essayons d'échanger un peu ce qu'il a dit. Non, bien sûr que non. Mais Jésus-Christ a dit, en ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, une communauté qui s'aime, l'Église en tant que communauté qui s'aime, peut donner au monde des signes qui appellent à la foi. Aujourd'hui, on peut regretter, il n'y a plus beaucoup de croyants, plus beaucoup de pratiquants. Les gens ne veulent plus venir à l'église, ils ne croient plus en Dieu. Bah, peut-être que si le Seigneur nous porte, avec notre liberté bien sûr, à donner ces signes de la foi, à être unis entre nous, à nous aimer les uns les autres, les gens de l'extérieur qui ne viennent pas à l'église, qui n'ont pas la foi, en nous regardant, pourront se dire « je voudrais avoir cet amour ». Combien de personnes, j'en ai connu moi-même personnellement, combien de personnes ont dit, ce qui m'a touché, c'est le rapport que vous avez entre vous, cette relation que vous avez entre vous, cette façon de vous mettre en rapport, je ne l'ai connu nulle part ailleurs. Vraiment. D'autres qui disent, et comme disait les païens au début de l'Église, c'est Tertullien, en écrivain du début de l'Église, qui nous dit que les païens, en regardant les communautés chrétiennes et primitives, se disaient « Voyez comme ils s'aiment ». Ébahis, bouche bée, ils disaient « Voyez comme ils s'aiment ». Et grâce à cela, petit à petit, tout l'Empire s'est converti en voyant comment ils s'aimaient. Donc c'est une parole qui nous appelle vraiment à la conversion, sans tomber, comme je dis, dans le légalisme, mais sans penser non plus que c'est un idéal inatteignable que Dieu nous a donné. Il a levé la barre si haut que nous, on fait comme on peut. Non, pas du tout. S'il nous l'a donné, ce nouveau commandement, c'est parce qu'il est possible avec lui. Si nous vivons en lui, avec les sacrements, avec l'écoute de la parole, grâce à la prière, mais c'est possible, puisque Dieu nous a aimés et il nous appelle à l'aimer en retour, tout en aimant notre prochain. Une bonne journée à tous.